Alors, Isabelle Falardeau, je pense pas que vous allez parler de l'Européa dans votre chronique.
Non, effectivement, on est dans une toute autre gamme d'offres alimentaires avec les cantines, les casse-croûtes du Québec. Mm-hmm. C'est un article qui a été écrit par Camille G. Jobin, qui est technicienne en documentation à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. C'est une collaboration spéciale avec le Journal de Québec, là où j'ai trouvé l'article. Mm-hmm. Et comme c'est quelqu'un de BANQ qui écrit l'article, il y a une très longue bibliographie à la fin. Si jamais vous allez lire l'article. Ouais. C'est rare qu'on voit ça dans un article du Journal de Québec. C'est un article qui est accompagné de nombreuses photos. Je ne vais pas toutes vous les décrire parce qu'en gros, c'est vraiment des photos de vieilles cantines, de camions tirés par des chevaux, avec des noms de cantines dessus. Il y en a au Québec, à Coaticook, Montréal. On voit l'intérieur des cantines, les anciens comptoirs avec les sièges peu à la
vintage,
là, qu'on a encore aujourd'hui, mais qu'on... qui sont de plus en plus rares, donc les sièges en vinyle, ces choses-là.
Oui, oui, la peau colle là-dessus quand il fait chaud.
Oui, c'est ça, exactement, si on reste trop longtemps. C'était peut-être voulu,
ah oui.
Pour pas qu'on reste trop longtemps, je ne sais pas. Mais c'est ça, donc c'est un article qui nous raconte vraiment l'histoire des casse-croûtes québécois, marqueurs du paysage québécois, hein, qui font incontestablement partie de notre culture. Et auquel on doit notre mets national, j'ai pas besoin de vous dire lequel.
La poutine, on cherche présentement.
Mais ce dont je vous parle, c'est vraiment bien, bien avant la poutine. Mm-hmm. Donc, on commence par nous parler du fait que c'était le repas des travailleurs. Hein, au 19e siècle, je vous avais dit qu'on allait commencer en 1894, donc il y a des établissements qui offraient des repas rapides qui sont apparus graduellement dans les villes. À Québec, on trouvait des petites cabanes sur les places du marché. Il y en a une à proximité du marché Champlain qui se trouvait au bord des quais, suspendue au-dessus de l'eau. Selon Jean-Marie Lebel, qui est auteur de Table d'hier et d'aujourd'hui, deux siècles de restauration à Québec, qui est un des livres en bibliographie de l'article, on y servait des repas à la minute. Donc, un repas servi en une minute, et de la petite bière à un sou le verre. Donc, on est loin de notre
c'est du fast-food
d'aujourd'hui.
C'est le début du fast-food.
Mais un journaliste rapporte quand même que la provenance des mets y était parfois douteuse. Alors, c'est pas nécessairement garanti que vous alliez avoir une très bonne digestion. On nous parle de... Pourquoi je vous dis 1894? Parce qu'en 1894, ça a été la première exposition provinciale. Ça, c'est un peu... on avait des expositions agricoles partout dans le Québec et à Québec, on a démarré l'exposition provinciale qui se tenait, elle, à la fin de l'été et les agriculteurs pouvaient participer à des concours là, pour les plus belles vaches, les plus belles récoltes, des choses comme ça. Donc, il y avait eu des concours régionaux dans les différentes villes du Québec et là, à la fin de l'été, c'était à Québec et ça a continué pendant plusieurs années. C'est un site qui a... Ça, c'était pas dans l'article, mais j'étais curieuse, donc je suis allée voir un peu plus en détail. Là. L'exposition provinciale, c'est sur le site où on retrouve le Colisée de Québec aujourd'hui. Le Colisée de Québec, c'était anciennement un hippodrome qui était sur ce site-là, qui faisait partie du site de l'exposition provinciale. C'est un grand site où il y avait des expositions. Il y a encore, en ce moment, là sur ce même site-là, il y a la place des... Le Grand Marché de Québec, le Centre de Foire de Québec.
C'est drôle, ça. Moi, j'ai vécu dans l'Outaouais, puis à Ottawa, ils ont comme le même genre d'infrastructure, puis c'est autour du Parc Lansdowne où il y a les matchs de football.
Ah, ben c'est ça. Donc, si jamais vous êtes curieux, ça s'appelle Expo Cité aujourd'hui, là, toute cette partie-là de Québec. Donc, c'est ça, à l'exposition provinciale de 1894, qui était la première, une cantine temporaire avait été installée devant le manège militaire pour servir les visiteurs. Et le restaurant JT Le Vallée vendait des repas à toute heure, en plus de cigares. Donc, on peut aussi fumer le cigare dans cette petite cantine-là.
Pas des cigares au chou, là. Hein?
Ah, pardon?
C'est pas des cigares au chou.
Pas des cigares au chou, non. Les vrais cigares qu'on peut fumer et qui empestent, selon certaines personnes. Et donc, ce type d'installation qu'on retrouvait dans les expositions, les foires et les fêtes foraines va devenir un incontournable. Au tournant du 20e siècle, donc là, on est quand même 100 ans plus tard, on retrouve ce genre d'établissement dans les quartiers ouvriers. Et là, on les appelait pas encore cantine ou casse-croûte, mais plutôt quick lunch, light lunch, pork and beans ou débit de fèves au lard. Parce que oui, c'est pas des frites, des hamburgers et des poutines qu'on trouvait à l'époque, mais plutôt des fèves au lard, des soupes au pois, des pâtés chinois, vraiment des mets canadiens inspirés de la cuisine de chantier.
Des choses robustes.
Voilà. Et c'était des commerces d'appoint qui servaient la clientèle donc du quartier où elles s'installaient, mais qui faisaient aussi l'objet de surveillance policière parce qu'on y vendait également de l'alcool. L'OCC, c'était les premières cantines. L'industrialisation et le travail en usine ont entraîné des nouveaux besoins en ce qui concernait l'alimentation dans la ville. Les chantiers et les camps de bûcherons possédaient des cantines, mais les usines n'offraient pas ce genre de service à leurs employés. Et c'est donc comme ça qu'ils sont apparus les premières cantines mobiles. Donc, principalement, c'était des roulottes tirées par des chevaux, les ancêtres des camions-restaurants ou food trucks, comme on dirait à l'Académie française, qui s'installent donc ces camions-là, tirés par ces roulottes, à la sortie des usines et offrent des repas chauds peu coûteux et servis rapidement. On dit que dans les années 1940, il y avait près de 200 cantines mobiles qui étaient encore en activité à Montréal. Et un quart d'entre elles était encore tiré par des chevaux. Mais puisque les employés doivent préparer la nourriture et s'occuper des chevaux, eh bien, peut-être que vous pouvez le deviner, mais il y a eu des problèmes d'hygiène et de salubrité. Et ça serait pour ça qu'en 1947, la vente de nourriture et de boissons sur la voie publique a été abolie à Montréal. Et par la suite, les autres villes l'ont assez rapidement suivi, les autres villes de la province. Et c'est un règlement qui a été maintenu jusqu'au retour de la cuisine de rue. Comme vous le savez, si vous habitez dans la région de Montréal, c'est pas très, très vieux. Là. Ça fait seulement depuis 2015 que c'est revenu à Montréal et 2017 à Québec. Donc, ça a été quand même un très grand, très long hiatus, là, de 1947 à 2015. Les établissements, par contre, c'est ça qui s'étaient installés de façon permanente sur des terrains privés. Il y avait certaines roulottes là, qui s'étaient installées sur des terrains privés. J'en ai parlé un peu dans ma chronique sur les cantines. Il y avait deux cantines de Shawinigan, entre autres, là, qui étaient à la base des roulottes tirées par des chevaux, mais qui s'étaient installées sur des terrains privés. Donc, elles, ces cantines-là, vont en profiter pour moderniser leurs installations. Installer les commodités de base, eau courante, électricité, toilettes. Et il y en a qui vont s'intégrer à d'autres commerces comme des épiceries ou des stations de service. Mais il y en a plusieurs qui vont rester vraiment très modestes et ça devient quand même des lieux de rencontre qui vont tailler leur place dans la culture populaire du Québec. À partir des années 1920, il y a aussi l'influence américaine qui se fait sentir et c'est là qu'on va commencer à servir des mets moins traditionnellement québécois. Donc, nos cantines vont embrasser l'influence du Sud et se transformer en snack bar à l'américaine avec les publicités de Coca-Cola, les menus qui vont maintenant offrir des hot dogs, des hamburgers, des milkshakes, etc. C'est pas toujours vu d'un bon œil, hein, cette américanisation-là. Le ministère de la Voirie et plus tard le ministère de l'Agriculture vont faire pression pour promouvoir des mets régionaux. Avec le soutien de la presse et du clergé catholique, ils vont aussi mener un combat pour stopper l'anglicisation des panneaux d'affichage. Bon, on pourrait dire stopper, pas empêcher que ça devienne anglais, parce qu'on parlait déjà, hein, on l'avait dit tantôt, là, de quick lunch, c'était pas mal tout en anglais, les noms.
Oui, oui.
Mais là, on commence à mener le combat pour la francisation. Donc, c'est ça, à partir de 1949, il y a un nouveau service chargé de la réglementation des affiches le long des routes qui est créé au sein du ministère de la Voirie. Ça a un peu aussi un lien avec ça. Donc, les affiches qu'on voit maintenant là, en bord de route. Pardon?
En 1949?
Ouais, en 1949, qu'il y a un nouveau service qui va réglementer les affiches le long des routes. Ah, bon, je suis sûr, ça, évidemment, on n'en parle pas dans l'article. La réglementation a changé au fil du temps. Maintenant, on a certaines choses qu'on n'a pas le droit d'afficher là, sur le bord des routes. Ensuite, on nous parle donc de l'essor de la voiture, hein, parce qu'au début, on se déplaçait à cheval. Après ça, on a commencé à se déplacer en voiture, surtout dans l'après-guerre. En 1944, le gouvernement fédéral instaure l'Office canadien de tourisme et deux ans plus tard, le Québec se dote d'un office provincial de publicité qui va probablement devenir l'Office du tourisme aussi. Et donc, ça coïncide aussi avec la démocratisation du tourisme et l'accès de la classe moyenne à la société des loisirs. Donc, il y a de plus en plus de gens qui ont les moyens de prendre des vacances. de voyager en voiture. Et là, c'est là que les motels et les casse-croûtes vont se multiplier à la bord des routes, dans des endroits stratégiques là, où on va pouvoir s'arrêter pour manger. La période de l'âge d'or, on parle de la période qui s'étale de 1950 à 1980. Donc ça a arrêté l'âge d'or des casse-croûtes. Il y a eu une réelle montée en popularité et c'est là qu'ils ont vraiment commencé à faire partie du paysage québécois, offrant évidemment des repas à faible coût. Ça devient des lieux de rencontre privilégiés pour les jeunes en quête de liberté, mais aussi pour les sorties en famille. Et c'est apparemment aussi à ce moment-là que les crèmeries se sont multipliées.
C'est une bonne idée.
Et là, on nous parle enfin, dans les années 1960, de ce fameux nouveau mets qui fait son apparition sur les menus, la poutine, cette grande vedette alimentaire qui est venue, en quelque sorte, cristalliser le lien entre l'identité québécoise et les casse-croûtes. Donc, on ne sait plus des fèves au lard, mais c'est pas juste les hamburgers et les frites américains. Là, on a notre propre plat québécois.
Notre propre signature.
Voilà.
Est-ce que évidemment, ça vient de
Drummondville? Dans la ville de Québec. Oui, c'est ça. Il y a toujours la guerre là, entre Drummondville et Victoriaville pour qui serait le premier, mais aussi Québec. Puisque à Québec, c'est Ashton, qui était le porte-étendard à partir de 1969, donc ça fait quand même longtemps. Je ne sais pas si vous le saviez, mais le restaurant Ashton, qui est maintenant une chaîne, en fait, mais à la base, c'était juste une petite roulotte sur le boulevard Hamel à Québec.
Ah oui?
Oui, donc ça commence. Eux aussi, ils ont commencé par avoir un petit casse-croûte. Il y a évidemment certains établissements qui vont choisir d'ouvrir uniquement pour la période estivale, là où il y a plus d'achalandage. Ça permet aussi, évidemment, d'avoir un plus faible investissement pour financer les installations. Il y a aussi différents magasins comme la compagnie Paquette et Zellers qui commencent à offrir un comptoir lunch. Alors, c'est pas des casse-croûtes, mais c'est un peu inspiré de la même... Du même objectif, donc, d'offrir de l'alimentation. On parle aussi que les aires de repas, les fameux food courts, hein, ça aurait commencé dans cette période-là aussi, pour permettre à la clientèle des centres commerciaux de magasiner plus longtemps.
Il faut que je vous arrête.
Ils n'ont pas besoin de retourner chez eux pour manger.
Il faut que je vous arrête parce qu'on n'a plus de temps.
Parfait.
Vous écoutez Au quotidien avec Yvan Deslauriers.
Bon, il a fallu couper court un petit peu pour... puis, on n'a pas eu le temps de s'inviter pour aller manger. Alors,
on va manger une bonne poutine ensemble, peut-être.
Oui, ben, il faudrait que ce soit une poutine pas salée dans mon cas, mais on peut arranger des choses, sûrement.
Une poutine maison, en ce moment-là, c'est toujours organisable.
Oui.
Mais oui, en fait, votre voix est très faible dans mes écouteurs. C'est pour ça que j'ai pas entendu vos petits avertissements. Mais donc, je voulais juste, en concluant, vous dire que si vous voulez retrouver l'article au complet ainsi que la vaste bibliographie, le titre de l'article, c'est « Voici la brève histoire des casse-croûtes québécois ». Et donc, c'était publié le 22 juin 2025 sur le site du Journal de Québec. C'est ça, je vous remercie beaucoup et en espérant qu'on va se reparler bientôt,
Yvan. J'aimerais bien ça et on va lever notre chapeau aussi à Serge Bradet qui, normalement, on entend sa belle voix à ce moment-ci de l'émission. Il y a eu un petit problème de santé. Il s'est fait mal à une cheville, je pense.
C'est un accident de travail, pratiquement. Là. C'est en se rendant au travail.
Faites du bénévolat.
Oui, ça se rend au bénévolat. Un accident de bénévolat.
Oui, c'est ça.
Ben oui, on va boire un milkshake à sa santé.
Ah, avec grand plaisir. Alors, à une prochaine, Isabelle.